Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Et à nouveau dans nos lectures en liberté, nous revoici ensemble pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard. Le jour du plébiscite fut venteux et couvert. On avait vu errer avec lassitude dans les rues du pays des groupes de jeunes gens dont le chapeau portait un carton orné d'énormes « oui » plantés entre le feutre et le ruban. Parmi les papiers sales et les débris soulevés par les tourbillons de vent s'élevaient quelques strophes de la belle légigiogine, transformé en mélopée arabe, ce qui est le destin habituel des mélodies les plus vives quand elles veulent conquérir la Sicile. On avait vu également deux ou trois têtes étrangères, c'est-à-dire de Girgenti, installées dans le bistrot du père Menico, chanter les Magnifici sorti e progressive d'une Sicile rénovée, unie, à une Italie ressuscitée. Quelques paysans les écoutaient, muets, abrutis par un usage immodéré de la houe, autant que par plusieurs jours d'oisiveté forcée et affamée. Ils se raclaient la gorge et crachaient souvent, mais ils se taisaient. Ils se taisaient tellement que ce fut probablement alors, comme le raconta plus tard Fabrice, que les visages étrangers décidèrent de donner à l'arithmétique et autres arts du quadrivium la prédominance absolue sur la rhétorique. Vers 4 heures de l'après-midi, le prince alla voter, flanqué à droite du père Pironet, à gauche de Don Onifrio Rotolo. L'air sombre et le poil clair, il avançait lentement vers la mairie, tout en protégeant d'une main ses yeux fragiles contre les tourbillons chargés de toutes les poussières récoltées dans la rue. Il craignait la conjonctivite à laquelle il était sujet. Tout en marchant, il faisait remarquer au père Pironet que l'air, sans vent, serait un étang putride, mais que ces souffles vivifiants entraînaient avec eux beaucoup de saleté. Il portait la même redingote noire que 2 ans auparavant, quand il était allé à Caserte aux obsèques de ce pauvre roi Ferdinand qui, grâce au ciel, était mort assez tôt pour ne pas assister à cette journée flagellée d'un vent impur, durant laquelle on allait consacrer solennellement son incapacité. Mais était-ce bien de l'incapacité? On pourrait en dire autant de ceux qui meurent du typhus. Il se souvint de ce roi qui s'efforçait d'opposer des digues au débordement des paperasses inutiles. Brusquement, il comprit tout l'inconscient appel à la miséricorde qu'exprimait ce visage antipathique. Ses pensées étaient pénibles, comme toutes celles qui nous dévoilent une situation alors qu'il est trop tard. L'aspect du prince, son visage, devinrent si ténébreux et si solennels qu'il semblait suivre un invisible corbillard. Les graviers giclait violemment sous le choc rageur de ses pieds, trahissant seul ce conflit intime. Inutile de dire que le nœud de son chapeau était vierge de toute étiquette. Mais aux yeux de qui le connaissait bien, un oui et un non alternatifs se succédaient sur le feutre soyeux. Il fut surpris de voir tous les membres du bureau se lever au moment où sa haute silhouette vint combler l'ouverture de la porte qui menait à la salle de vote. On écarta quelques paysans arrivés avant lui. Et c'est sans avoir à attendre que Don Fabrice confia son oui aux mains patriotiques de Don Calogero Sedara. Le père Pironet ne vota pas, car il avait eu soin d'éviter qu'on l'inscrivît comme ayant sa résidence à Donna Fugata. Don Onofrio, lui, manifesta son opinion monosyllabique sur la délicate question italienne en se conformant au désir du prince. Il exécuta ce chef-d'œuvre de concision avec la bonne grâce d'un enfant qui boit son huile de ricin. Ensuite, tout le monde fut invité à prendre un verre dans le bureau du maire. Mais le père Pironet et Don Nofrio s'abritèrent pour refuser derrière les bonnes raisons, l'un d'abstinence, l'autre de fragilité stomacale. Ils restèrent en bas. Don Fabrice dut affronter seul les rafraîchissements. Derrière le bureau du maire flamboyait un portrait de Garibaldi et, déjà, un portrait de Victor Emmanuel, heureusement placé sur la droite. Le premier, fort bel homme, le second, très laid, il devait cependant un air de famille à la prodigieuse luxuriance du poil qui masquait une partie de leur visage. Sur une petite table basse, on avait posé une assiette pleine de biscuits très vieux, endeuillés par les crottes de mouche, et 12 petits verres trapus, pleins de liqueur. 4 de Rossolis rouge, 4 de Rossolis vert. Et au centre, 4 de Rossolis blanc. Ce symbole ingénu du nouveau drapeau veina d'un sourire le remords du prince. Il choisit la liqueur blanche. Non, comme on le crut, pour rendre un tardif hommage à l'étendard des Bourbons, mais parce qu'il la présumait moins indigeste. Les 3 variétés de Rossolis étaient du reste également sucrées, poisseuses et répugnantes. On eut le bon goût de ne pas porter de toast. Comme le fit remarquer Don Calogero, les grandes joies sont muettes. On montra à Don Fabrice une lettre des autorités de Girgenti qui annonçait aux laborieux citoyens de Donna Fugata l'attribution d'un crédit de 2000 livres pour la construction d'égouts. Entreprise qui serait menée à terme avant la fin de 1961, comme l'annonça le maire. Trébuchant sur un de ces lapsus dont Freud devait expliquer le mécanisme quelques dizaines d'années plus tard. Puis la réunion prit fin. Avant le coucher du soleil, les 3 ou 4 prostituées de Donna Fugata, car il y en avait là comme ailleurs, mais établies à leur propre compte et fort actives dans leurs entreprises privées, apparurent sur la place. Leurs chevelures parées de rubans tricolores pour protester contre la loi qui privait les femmes du droit de vote. Les pauvres filles furent couvertes de colibets, même par les libéraux les plus enflammés, et durent aller se cacher au plus vite. Ceci n'empêcha pas le Giornale di Trinacria, 4 jours après, de faire savoir aux palermitains qu'à Donna Fugata, quelques distinguées représentantes du beau sexe ont voulu manifester leur foi inébranlable dans les nouveaux et éclatants destins de leur patrie bien-aimée et ont défilé sur la place au milieu de l'approbation générale d'une foule patriote. On ferma le bureau de vote et les scrutateurs se mirent à l'œuvre. À la nuit noire, Don Calogero apparut au balcon central de la mairie, avec l'écharpe tricolore et tout le tremblement, flanqué de deux acolytes portant des candélabres que le vent éteignit au plus vite. À la foule invisible dans les ténèbres, il annonça qu'à Donna Fugata, le plébiscite avait donné les résultats suivants. Inscrit 515. Votant 512. Oui, 512. Non, 0. De la place obscure montèrent les applaudissements et les cris. Sur le petit balcon de sa maison, Angélique, accompagnée de sa funèbre servante, battit ses belles mains rapaces. On fit des discours. Des adjectifs empanachés de superlatifs et de doubles consonnes résonnèrent et se répercutèrent entre les murs dans le noir. On envoya au milieu du tonnerre des pétards un message au roi, le nouveau, et un autre au général. Quelques feux d'artifice tricolores grimpèrent au-dessus du village sombre, vers un ciel sans étoiles. À 8 heures, tout était fini, et l'obscurité régna, seule, comme chaque soir, depuis toujours. Tout était maintenant limpide au sommet du mont Morco, la lumière triomphait. Don Fabrice sentait cependant cette sombre nuit stagner encore au fond de son âme. Son malaise prenait des formes d'autant plus pénibles qu'elles demeuraient plus vagues. Il ne tenait nullement aux vastes questions que le plébiscite avait commencé à résoudre. Les grands intérêts du royaume, celui des deux Siciles, les intérêts de sa propre classe, ses avantages privés, sortaient des événements quelque peu meurtris, mais préservés pour l'essentiel. Étant donné les circonstances, on ne pouvait demander davantage. Le malaise du prince n'était donc pas de nature politique. Il devait avoir des racines plus profondes. Plongé dans une de ces causes que nous appelons irrationnelles, parce qu'elles sont ensevelies sous la masse de l'ignorance où nous sommes de notre propre nature. L'Italie était née au cours de cette soirée morose, à Donna Fugata, dans ce pays oublié, aussi bien que dans la paresse de Palerme ou l'agitation de Naples. Une méchante fée était certainement présente, une méchante fée dont on ne connaissait pas le nom. De toute façon, l'Italie était née, et il fallait espérer qu'elle vivrait sous la forme qu'elle avait prise. Tout autre aurait été pire, d'accord. Pourtant, cette inquiétude persistante devait avoir un sens. Il sentait que pendant cette trop sèche énumération de chiffres, comme pendant ces discours trop emphatiques, quelque chose était mort. Quelque chose ou quelqu'un. Dieu seul savait dans quelle ruelle du pays, dans quel repli de la conscience populaire.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
De nouveau avec le roman de Lampedusa, Le Guépard. Le lendemain, à la chasse, la fraîcheur avait dissipé la somnolence de Don Ciccio. Et l'imposante immobilité du prince avait éloigné ses craintes. Il sentait maintenant revenir à la surface une colère, certes inutile, mais point méprisable. Dressé, il parlait en dialecte et gesticulait, pauvre pantin raisonnable, ridicule. « Moi, excellence, j'avais voté non. Non, 100 fois non. Je sais ce que vous m'avez dit. La nécessité, l'unité, l'opportunité. » Certes, c'est vous qui devez avoir raison. Moi, la politique, je n'y comprends rien. Je laisse ce souci aux autres. Mais Ciccio Tumeo est un honnête homme pauvre et misérable, aux culottes percées. Et il frappait sur ses fesses les pièces qui minutieusement raccommodaient son pantalon de chasse. Je n'oublie pas les bontés qu'on a eues pour moi. « Ces cochons de la mairie ne font qu'une bouchée de mon opinion. Ils la mâchent et puis ils la chient, transformés comme bon leur semble. » Pour une fois que je pouvais dire ce que je pensais, ce vampire de Cédara m'annule. Fait comme si je n'avais jamais existé, comme si je ne m'étais jamais mêlé de rien. Moi, Francesco Tumeo la Mana, fils de feu Léonard, organiste de la cathédrale de Donna Fugata, 1000 fois supérieur à ce crétin, à qui j'ai même pas dédié une mazurka qu'en acquis sa... Il se mordit un doigt pour rattraper ce qu'il allait dire. Sa pimbèche de fille. Alors, le calme descendit sur Don Fabrice. Il avait enfin résolu l'énigme. Il savait maintenant qui avait tué à Donna Fugata et en 100 autres endroits au cours de cette nuit de vent sale. Une petite fille, à peine née, la bonne foi. Cet enfant que l'on aurait dû justement soigner avec le plus d'égards et dont la croissance aurait pu justifier après coup quelques actes de stupide vandalisme. Le vote négatif de Don Ciccio. 50 votes semblables à Donna Fugata. 100 000 non dans tout le royaume n'auraient rien changé au résultat. Il l'aurait au contraire rendu plus significatif. Et l'on aurait évité de forcer des âmes. 6 mois plus tôt, on entendait une voix dure et despotique qui menaçait. « Fais ce que je te dis, sans quoi gare à toi. » Maintenant, la menace était remplacée par les paroles doucereuses de l'usurier. « Mais voyons, tu as signé toi-même, tu ne vois pas. » C'est tellement clair, il faut faire ce que nous te disons. Tiens, regarde ce papier, tu veux ce que je veux. Don Ciccio tonnait encore. Vous les nobles, c'est différent. On peut se montrer ingrat pour un fief qu'on a reçu en supplément. Mais pour un morceau de pain, la reconnaissance est une obligation. Quant aux trafiquants comme Cédara, c'est encore une autre paire de manches. Ils considèrent le profit comme une loi naturelle. En ce qui nous concerne, nous, les petites gens, les choses restent ce qu'elles sont. Vous le savez, Excellence, mon pauvre père était garde-chasse du pavillon royal de San Onofrio au temps de Ferdinand IV, sous l'occupation anglaise. La vie était dure. Mais l'uniforme royal vert et la plaque d'argent vous donnaient de l'autorité. Ce fut la reine Isabelle, l'Espagnole, alors duchesse de Calabre, qui me fit faire mes études et me permit d'être ce que je suis, organiste de la cathédrale, honoré de la bienveillance de votre Excellence. Quand les années devenaient trop difficiles, ma mère envoyait une supplique à la cour et les 5 onces de secours arrivaient, sûres comme la mort. Parce qu'à Naples, on nous aimait bien. On savait que nous étions de braves gens, de fidèles sujets. Quand le roi venait, il frappait sur l'épaule de mon père et disait « Donne Léonard, il me faudrait beaucoup de fidèles comme vous. J'ai besoin de soutien du trône et de ma personne qui vous ressemble. » Et puis l'aide de camp distribuait les pièces d'or. « Aumône, disent-ils à présent, en parlant de générosité des vrais rois. Mais ils le disent pour ne pas avoir à faire la même chose. C'était pourtant les justes récompenses de notre dévouement. Aujourd'hui, si ces saints rois et ces belles reines nous regardent du ciel, que doivent-ils penser? Le fils de Don Leonardo Tumeo nous trahit. » Heureusement qu'au paradis, on connaît la vérité. Je le sais bien, Excellence, je le sais bien. Les gens comme vous me l'ont dit. Ces générosités-là, de la part des rois, ça ne signifie rien, ça fait partie du métier. C'est peut-être vrai. C'est sûrement vrai. Mais les 5 onces, on les avait, c'est un fait, et grâce à elles, on tenait le coup tout l'hiver. Et maintenant que je pouvais payer un peu ma dette, rien à faire. Tu n'y entends rien. Et mon nom devient un oui. J'étais un fidèle sujet, je deviens un dégoûtant bourbon. Aujourd'hui, tout le monde est savoyard, mais les savoyards, je les avale avec mon café. Voilà. En tenant entre le pouce et l'index un biscuit invisible, il le trempait dans une tasse imaginaire. Don Fabrice avait toujours aimé Don Ciccio, un homme qui s'est pris jeune pour un artiste et qui découvre par la suite son manque de talent mais continue d'exercer son activité au plus bas échelon en mettant ses rêves flétris dans sa poche. Un tel homme inspire la pitié. Le prince était aussi touché par la digne pauvreté de l'organiste. Désormais, il éprouvait même une sorte d'admiration. Et tout au fond de son orgueilleuse conscience, il se demandait si par hasard, Don Ciccio ne s'était pas comporté plus noblement que le prince de Salina. Et les Cédara, tous les Cédara, du minuscule Cédara qui violentait l'arithmétique à Donna Fugata jusqu'au grand Cédara de Palerme, de Turin, n'avait-il pas commis un crime en forçant ses consciences? Don Fabrice ne pouvait pas savoir alors qu'une bonne partie de la paresse, du fatalisme dont, pendant les décades suivantes, on devait accuser les gens du Sud aurait son origine dans cette stupide abolition de leur première expression de liberté. Don Ciccio était soulagé. Le rôle sincère, mais inhabituel, de l'honnête homme austère cédait le pas au rôle beaucoup plus fréquent et non moins naturel du snob. Car Tumeo appartenait à l'espèce zoologique des snobs passifs, espèce injustement décriée aujourd'hui. Bien entendu, le mot snob était inconnu dans la Sicile de 1860, mais de même que les tuberculeux existaient avant Koch, de même il existait en cet âge lointain des gens pour qui obéir, imiter et surtout ne pas choquer ceux qu'ils estimaient de rang supérieur était la loi suprême de la vie. Le snob, en fait, est le contraire de l'envieux. En ce temps-là, il apparaissait sous l'étiquette du dévoué, très attaché, fidèle. Et il menait une vie agréable parce que le sourire le plus fugitif d'un noble suffisait pour ensoleiller toute sa journée. Don Ciccio, cordial et snob par nature, craignit d'avoir ennuyé Don Fabrice. Et sa sollicitude chercha à dissiper les ombres qui s'étaient accumulées, par sa faute, croyait-il, sur le front olympien du prince. Le moyen le plus immédiatement efficace lui sembla de reprendre la chasse. Il le proposa, et ce fut fait. Surprises dans leur sieste, quelques malheureuses bécasses et un second lapin tombèrent sous les coups des chasseurs, particulièrement précis et impitoyables ce jour-là. Tous deux se plaisaient à identifier avec Don Calogero Cedara ces innocentes bestioles. Mais les pétarades des fusils, les pirouettes des petits paquets de poils ou de plumes que les coups faisaient briller un instant au soleil, ne suffisaient pas à rasséréner le prince. À mesure que les heures passaient, à mesure que s'approchait son retour à Donna Fugata, sa préoccupation, son dépit et l'humiliation anticipée de son entrevue avec le maire plébéien l'accablaient toujours davantage. C'est en vain qu'il avait appelé en son cœur deux bécasses et un lapin Don Calogero. Bien que décidé à avaler la couleuvre qui lui semblait fort répugnante, il sentit le besoin d'avoir sur son adversaire de plus amples informations, de sonder l'opinion publique sur le pas qu'il se décidait à franchir. C'est ainsi que, pour la deuxième fois de la journée, Don Ciccio fut surpris par une demande faite à brûle-pourpoint. Don Ciccio, écoutez-moi. Vous qui connaissez tous les gens du pays, dites-moi ce qu'on pense vraiment de Don Calogero à Donna Fugata. La vérité, Excellence, c'est que Don Calogero est très riche et aussi très influent, qu'il est avare. Quand sa fille était au collège, lui et sa femme se nourrissaient d'un œuf au plat pour deux, mais que quand il le faut, il sait dépenser. Chaque pièce aboutit fatalement dans la poche de quelqu'un, et le résultat, c'est que beaucoup de personnes dépendent maintenant du maire. Et puis, quand il aime les gens, il les aime. Il n'y a pas à dire. Sa terre, il la donne à 5 terrages, et les paysans doivent se crever pour la payer. Mais il y a un mois, il a prêté 50 onces à Pascal Tripi, qu'il avait aidé au moment du débarquement, et sans intérêt, ce qui est le plus grand miracle qu'on ait vu depuis que Sainte Rosalie a arrêté la peste de Palerme, au demeurant intelligent comme le diable. Dommage que votre Excellence ne l'ait pas vu en avril et mai dernier. Il filait à droite et à gauche dans toute la contrée comme une chauve-souris, en voiture à cheval, sur sa mule, à pied, par la pluie ou par le beau temps. Là où il passait, on formait des sociétés secrètes, on préparait la voie à ceux qui devaient venir. Un fléau de Dieu, Excellence, un fléau de Dieu. Et encore, ce n'est que le début de sa carrière. Dans quelques mois, il sera député au Parlement de Turin. Dans quelques années, quand on vendra les biens du clergé, il achètera pour une bouchée de pain les fiefs de Marca et de Fondacello et deviendra le plus gros propriétaire de la province. Voilà Don Calogero, Excellence. Voilà l'homme nouveau tel qu'il doit être. Mais c'est dommage qu'ils doivent en être ainsi. Nous avons terminé pour ce soir donc la lecture de ce roman de Lampedusa, le guépard, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr, en podcast. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.